Il est 18h15 à Niamey, chers auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue dans votre émission radiophonique quotidienne de débat et d'échange sur des questions d'actualité ou de société avec des acteurs et personnes ressources que nous invitons pour vous à se teuffer. Vous suivez nos programmes grâce à un réseau dynamique de 47 radios partenaires qui diffusent nos programmes dans toutes les 8 régions du Niger. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au thème « Comment réussir l'épreuve de français au baccalauréat ». Les épreuves écrites de la session 2021 du baccalauréat nigérien débuteront en effet le mercredi 4 août 2021 sur l'ensemble du territoire national. Cette année, ce sont un peu plus de 80 000 candidats inscrits qui sont appelés à affronter ces épreuves selon l'Office du baccalauréat du Niger, OBN. Quel que soit le type de baccalauréat et la série, la première épreuve à affronter par le candidat est celle de français. Dans la première partie de ce forum, nous verrons d'abord comment choisir son sujet parmi les 3 proposés. Ensuite, nous verrons comment il faut traiter chacun de ces 3 sujets. Et la troisième partie de ce forum s'intéressera enfin aux conseils pratiques pour réussir chacun de ces 3 sujets au choix proposé au candidat. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invités 2 enseignants de français et de lettres, plusieurs fois correcteurs des épreuves du baccalauréat. Il s'agit de M. Soumane Chamsou et Abraham Idi. Bonsoir, chers invités.
Bonsoir.
Et merci d'avoir répondu présent à cette invitation de Studio Kalangou. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Commençons par la première partie de ce forum, Monsieur Soumane Chamsou. D'abord, quels sont les 3 types de sujets de français au choix qu'on propose aux candidats pour le baccalauréat?
Bonsoir, Michel. L'épreuve de français au bac comporte 3 sujets au choix, à savoir la contraction de texte appelée résumé plus discussion et le sujet 2, deuxième sujet, c'est commentaire composé. Et troisième sujet, la dissertation littéraire.
On donne une citation.
Oui, la dissertation littéraire, elle est différente de la dissertation générale.
Mm-hmm.
Donc, elle est purement littéraire. La dissertation littéraire sous-entend qu'il faut faire une réflexion sur un domaine purement artistique ou littéraire. Donc, les différents domaines abordés en dissertation, c'est l'art, la littérature, la lecture, le roman, le théâtre, la poésie, l'écriture, la lecture, etc. L'inspiration. Donc, hors de ces domaines, on parle de discussion. C'est ça le travail de résumé discussion. La discussion comporte un sujet d'ordre général, basé le plus souvent sur l'actualité, sur tous les domaines. C'est ça la dissertation générale.
La corruption,
tous les domaines
la
de la vie courante. Exactement. Exactement. Donc, alors que la dissertation elle est purement littéraire, la discussion est une autre dissertation, mais d'ordre général.
Un exemple, par exemple, de sujet de discussion.
Le sujet est tiré toujours du texte à résumer. Donc, à partir du texte.
On propose, mais on dit aussi qu'on peut
choisir
un autre sujet.
L'élève est capable de. Oui, s'il il voit que le sujet.
Puisé
du texte initial est difficile, il est capable de chercher un autre sujet du même texte, obligatoirement du même texte.
Pas
de chercher ailleurs, mais c'est du texte, puisque le sujet n'est rien d'autre qu'un argument avancé par l'auteur du texte. Donc, le texte est composé de plusieurs arguments. Et tous ces arguments sont discutables. Il s'agit de proposer un argument à l'élève et on donne une consigne de discuter. Maintenant, l'élève, s'il voit que ce qui a été formulé dans le sujet de discussion, il n'a pas pu comprendre le sens, le problème posé, il n'est pas forcé de s'entêter à vouloir traiter le même sujet, mais il doit mentionner sujet proposé. C'est-à-dire que sur sa copie, au lieu d'écrire le sujet-là, il va écrire comme la consigne. On vous dit, vous pourrez par exemple discuter l'idée de l'auteur selon laquelle, deux points, on ouvre les guillemets, on met une citation du texte. Donc l'élève recompose la même consigne, maintenant en changeant la phrase qui est entre guillemets. C'est à partir de là, le correcteur comprendra que ce qu'il est en train de corriger n'est pas forcément ce qui a été proposé par l'épreuve. Par exemple, on peut demander de discuter l'idée de l'auteur selon laquelle le tourisme est un facteur de développement.
Mmh. Le tourisme est un facteur de développement. Mmh. Mmh.
Donc, ça veut dire que c'est tiré d'un texte.
Bien sûr.
Maintenant, à partir de là, on tire cette phrase du texte et on formule une question. Après avoir résumé ce texte en un quart de sa longueur initiale, vous discuterez cette idée de l'auteur selon laquelle, de point, on ouvre les guillemets, on met cette est un facteur de développement.
Il y a un exemple pour la dissertation qui est proposée dans l'un des sujets, justement.
Oui, donc, dissertation, c'est différent de la discussion. Par exemple, la célèbre formule de Stendhal qui dit « Un roman est un miroir que l'on promène le long d'une rue. Mm-hmm. » Donc, on met cette citation entre guillemets, on dit « Qu'en pensez-vous ? » Ou bien « Partagez-vous cette opinion de Stendhal ? » Expliquez et commentez cette assertion de Stendhal. Donc, ça veut dire que le problème de la dissertation, c'est que c'est surtout c'est la consigne qui donne le type de plan. Malheureusement, les élèves pensent que tout est dialectique.
C'est-à-dire thèse, antithèse, synthèse.
Voilà. Malheureusement, en dissertation, la consigne change le type de plan. Donc, je peux amener la même citation avec une autre formule de consigne et ça ne va pas avoir...
On dit doit-on, peut-on... Voilà. On verra ça dans les détails, M. Soumane Chamsou. Merci à vous. M. Abraham Idi Aboubakar, on a vu qu'il y a donc trois types de sujets de français proposés, comme cela a été expliqué par M. Soumane Chamsou. Il s'agit de la discussion, c'est-à-dire le résumé discussion. L'épreuve de français comporte aussi un deuxième sujet, qui est la dissertation littéraire. Il y a un autre sujet, qui est le commentaire composé. Qu'est-ce que ça veut dire, le commentaire composé?
Le commentaire composé, c'est un des trois exercices proposés au baccalauréat. Plus précisément, il est en deuxième position, comme l'a rappelé M. Chamsou. C'est un exercice littéraire qui tourne autour d'un texte d'une quinzaine de lignes environ. Voilà. Il s'agit, par ce texte, de faire un travail essentiellement explicatif. Il est carrément différent de la discussion ou encore de la dissertation. Là, donc, par rapport à ces deux exercices, il s'agit d'un travail d'argumentation. Alors que le commentaire composé est un travail essentiellement explicatif. Il s'agit d'expliquer...
C'est-à-dire qu'il faut expliquer ce qu'on a lu.
Il faut expliquer, voilà, le fond de la pensée de l'auteur sur la base de ce qu'on a donné comme centre d'intérêt. Et les centres d'intérêt, ils sont généralement proposés dans la consigne. Voilà. Lorsqu'on vous dit, vous ferez de ce texte un commentaire composé. Vous pourriez, par exemple, étudier l'idée selon laquelle, voilà, et on vous donne, donc, à partir de là, les centres d'intérêt. Alors, c'est à partir de ces centres d'intérêt que l'élève va élaborer son travail. Et c'est un travail essentiellement explicatif. Il n'a pas à donner son point de vue.
Contrairement
à la discussion ou encore à la dissertation.
À la dissertation, parfois les thèses qu'on propose, on a l'impression que les mots sont lourds de sens, le lexique est parfois difficile. Est-ce que tout cela n'est pas compliqué ou ne rend pas cette épreuve proposée à ce niveau?
Je pense que le problème n'est pas là. Le lexique n'est pas du tout compliqué. Le langage, il est assez simple. Mais le problème, c'est que les élèves n'ont pas assez de niveau. Oui, en fait, c'est ça. Les élèves ont tourné le dos à la lecture et du coup, ils sont pauvres en vocabulaire. C'est ce qui fait que très souvent, ils ont des difficultés à cerner certains textes. Mais en vérité, tous les textes sont à leur portée et on ne peut pas d'ailleurs même amener quelque chose qui serait en dehors des capacités de l'élève. C'est totalement insensé. Tout ce qu'on leur propose au baccalauréat, ce qu'on suppose qu'ils sont à même de le faire. Mais malheureusement, comme je le dis, ils ont tourné le dos à la lecture et du coup, ils ont du mal à concrètement comprendre ce qu'on voudrait dire.
Monsieur Abraham Idi Aboubakar, nous avons là donc une épreuve qui dure 4 heures de temps. Avant de commencer, il faut choisir parmi les trois types de sujets proposés au candidat. Comment le candidat doit-il faire ce choix?
Merci. Ce que nous devrons d'abord comprendre, c'est que, en vérité, tous les trois exercices qui sont proposés au bac, on les commence à partir de la seconde. Si vous voulez, même certaines préparations se font depuis le collège.
Le collège.
Voilà, à savoir l'étude de certains temps verbaux, l'étude de la grammaire, l'étude des figures de style, l'étude des tonalités. Vous voyez, tout cela, c'est pour préparer l'élève à mieux affronter ces épreuves. Donc, à partir de la seconde, on essaie de voir cela beaucoup plus en détail, de manière assez approfondie. Et je me dis que sur une durée de 3 ans, l'élève est censé comprendre parmi ces 3 exercices lequel lui est le plus abordable. Mmh. Une chose est sûre, avant la fin de l'année de terminale, l'élève est censé comprendre parmi ces 3 exercices-là lequel est plus abordable pour lui. Ce que tes capacités te permettent de faire. Mais une chose est sûre, c'est que l'élève est condamné à maîtriser tous les 3 exercices.
Parce que justement, il peut arriver, par exemple, qu'on donne une citation qui n'est pas comprise par le candidat.
Voilà.
Quel conseil par rapport à ça? Puisque quand on se prépare à un sujet et que finalement, on se rend compte qu'on se retrouve dans l'obscurité à travers ce sujet, on a tendance à l'abandonner. Certains le font 2 heures après avoir commencé à traiter, d'ailleurs.
Voilà.
Quel conseil par rapport
à
ça?
C'est cela. En fait, c'est pour cela que je suis retourné jusqu'en seconde pour essayer d'expliquer que c'est un travail qui se fait sur 3 ans. L'élève est condamné à maîtriser tous les 3 exercices. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a des élèves qui, jusqu'en classe de terminale, ils ne savent pas vous faire une dissertation, ou encore, ils ne savent carrément même pas ce que c'est que le commentaire composé. Les gens sont plus tentés par la contraction de texte, parce qu'ils se disent que ça offre beaucoup plus de garanties. Vous avez la possibilité d'avoir quelque chose au niveau du résumé, et compléter avec un petit quelque chose que vous aurez au niveau de la discussion. Alors qu'en dissertation, il suffit tout simplement de faire un hors-sujet, de se retrouver avec un 2 ou un 3. Vous voyez, le commentaire composé, depuis très longtemps, ça a été la bête noire des élèves, comme vous l'avez dit, en raison de la complexité des textes, parfois, qu'on propose. Donc, et on se retrouve avec des élèves qui, jusqu'en classe de terminale, ils sont entre griffes des spécialistes de la contraction du texte. Or, c'est très dangereux.
Quel conseil par rapport à ça, M. Soumane Chamsou, pour qu'on n'ait pas des candidats qui commencent à traiter un sujet au bout de 2 heures de temps et qui abandonnent pour chercher un autre sujet qu'ils estiment être moins difficile, en quelque sorte?
Le collègue l'a très bien dit. Les 3 exercices sont enseignés de manière progressive. En seconde, le programme est basé sur le résumé discussion et la dissertation générale. En première, les 3 exercices sont abordés. Ce qui fait que aucun élève ne puisse dire qu'il ne sait pas ce qu'il va faire avant d'aller au bac. Tous les élèves savent exactement ce qu'ils ont maîtrisé. Par exemple, à seconde, l'élève qui a maîtrisé le résumé discussion, il se dit, bon, moi, je ne veux pas apprendre autre chose. Souvent, il cherche chaque instant à faire seulement un résumé de décision au niveau de toutes les évaluations. Si ce n'est pas une interrogation forcée où le professeur fait autre exercice, mais tant qu'il a le choix entre les 3 exercices, il fait seulement un résumé de décision. Parce que dès la seconde, il a choisi. Arrivé en terminale, il a toujours essayer de faire peut-être le premier devoir, il essaie de faire commentaire, il a une mauvaise note, il se rabat directement sur le premier exercice qu'il a maîtrisé.
Résumé discussion.
Il y a d'autres, c'est dissertation.
C'est leur sujet préféré.
Oui, non, mais résumé discussion, c'est faux. Ce n'est pas leur exercice préféré. C'est faux et archi faux. Moi, j'ai commencé à corriger le bac en 2006. Jusqu'à cette année, je n'ai jamais manqué. Je n'ai jamais manqué une année.
Chaque année, vous êtes correcteur.
Je suis correcteur. Et je vous dis que, sincèrement, peu d'élèves arrivent à avoir la moyenne en résumé de session. Le résumé est totalement nul. Ils font des paraphrases. Ils n'ont pas un niveau d'expression pour leur permettre de faire résumé. C'est la vérité.
Ce qui gagne,
c'est la discussion. Ceux-là qui peuvent arriver à avoir 8, ce n'est pas parce qu'ils sont forts en résumé. Souvent, ils ont 1 en résumé, 7 en discussion. Ou bien, ils ont 2 en résumé, 6 en discussion.
Ça,
tous les enseignants le savent.
C'est noté sur 10, le résumé, la discussion sur 10 également. Certains disent au moins là, on sait qu'il y a 2 fois de notes et il faut additionner. On a plus de chances de gagner.
Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Au moins, ça offre une chance, mais malheureusement, d'autres ne maîtrisent ni la discussion, ni le résumé. L'élève qui a 1 sur 10 en résumé et qui a 1 en discussion, parce que discussion aussi, c'est une méthodologie.
Il faut donner 1 en discussion.
Très bien. 1 en discussion avec vraiment confiance et assurance. C'est un travail de fond.
Alors, en résumé, en combien de temps faut-il choisir son sujet, M. Soumane Chamsou?
Quand on est en face de l'épreuve.
Mmh.
Non, en face de l'épreuve, l'élève, j'ai dit, il a déjà choisi.
Ah bon?
en face de l'épreuve, le jour du bac, chaque élève rentre avec la ferme conviction que je ferai cet exercice. Mm-hmm. Il y a des élèves, moi, depuis la rentrée, ils ont dit, monsieur, moi, je ferai commentaire. Mm-hmm. On a fait le débat en classe. J'ai
et
dit,
lorsqu'ils
attention,
sont bloqués,
oui,
qu'est-ce
voilà.
qu'il y a lieu de faire, par
c'est
exemple,
ça, j'ai dit.
Quand on a quelqu'un qui choisit la dissertation et mm-hmm. on lui apporte une citation, par exemple, de Léopold Sédar Senghor, il dit, l'émotion est nègre, la raison est laine, qu'en mm-hmm. pensez-vous mm-hmm. S'il ne comprend pas la citation, il fait comment alors?
En réalité, l'élève qui a choisi dissertation, mm-hmm. il ne peut pas ne pas trouver le problème. La plupart des élèves qui ont choisi dissertation, ce sont des vrais lecteurs.
Mmh. On ne choisit pas. Parfois, il n'y a pas des mots qui bloquent, qui font
non,
que le candidat ne comprend pas. Par exemple, le mot Hélène ici, est-ce qu'on peut comprendre ça facilement?
Si l'élève est lecteur, déjà, cette formule est enseignée en première.
Bien sûr.
Ça, c'est obligé. Mmh. Aucun professeur de français ne puisse enseigner un élève en première sans passer par la négritude. Mmh. Et ces textes-là, de Léopold Sédar Senghor, sont illustratifs. Mmh. Donc, l'élève ne peut pas passer sans comprendre cela. Mmh. Mais c'est pour ça que j'ai dit, si l'élève a choisi dissertation, ce sont les meilleurs élèves de la A même qui choisissent dissertation.
Bien sûr.
Parce que ce sont des lecteurs. Mmh. Et la lecture, j'ai toujours dit aux élèves, c'est ce qu'elle représente en matière d'âge. Dans notre société africaine, on disait que le sage, c'est celui qui a... C'est le veillard, mm-hmm. parce qu'il a assez vécu, mm-hmm. il a vu assez d'expérience. Mais celui qui lit, il dépasse en matière d'expérience le veillard. Donc, ces hommes, ces candidats lecteurs-là, ils sont mieux aguerris que ceux qui prennent résumé de décision, parce que les partisans du moindre effort qui choisissent le résumé de discussion mm-hmm. dans le but tout simplement de fuir la recherche. Mm-hmm. C'est simplement parce qu'ils veulent...
Et en corrigeant leur épreuve, vous avez déjà, vous, en tant que correcteur, cette conviction?
On n'a pas cette conviction parce qu'il y a des candidats qui sont meilleurs en résumé. Parce que moi, j'ai l'habitude de donner 9 sur 10 en résumé. Mm-hmm. On peut trouver des vrais élèves qui, mm-hmm. l'expression leur est facile mm-hmm. et qui savent reformuler. Parce que ce n'est, le problème, le résumé est basé sur un certain nombre de règles à observer. Mais... ces règles-là, la première règle la plus fondamentale, c'est la reformulation. Mmh. Il faut pouvoir reformuler, mmh. ne pas ramener les mêmes phrases de l'auteur en supprimant quelques mots. Ça, ce n'est pas résumé. Donc, ce n'est pas un mot qu'on cherche. Mmh. C'est cette phrase ou bien ce groupe de phrases exprime une idée. Mmh. Comment puis-je remettre cette idée-là contenue dans cette liste de phrases. Mmh. Souvent, trois phrases disent une seule idée. Mmh. Et on peut, l'essentiel que l'élève comprenne l'idée, et c'est bon. À l'aide de ses propres termes. Sans penser qu'il faut changer, il faut sauter un seul mot, il faut prendre les phrases, vous sautez un mot, vous ramenez le deuxième mot. C'est pas
pour tourner cette page, le candidat a environ combien de minutes pour être décisif par rapport au sujet choisi, M. Soumachov?
Un élève, quand il prend l'épreuve de français, il regarde son sujet, ce qu'il a déjà choisi. Avant de venir, il a dit, bon, je vais faire dissertation. Mm-hmm. S'il lit la dissertation, il voit qu'il n'a pas bien compris. Mm-hmm. Il est obligé de se rabattre sur là où ce que vous appelez facile. Mm-hmm. C'est-à-dire résumé, discussion. Mm-hmm. Mais s'il a compris, il n'a pas besoin de regarder les autres sujets. Mm-hmm. Mais s'il n'a pas compris ce sujet-là, il est obligé maintenant de chercher l'échappatoire. Mm-hmm. Aller vers le résumé.
Il doit faire ça en combien de temps environ?
Mais c'est automatique, c'est une lecture. Aussitôt on te donne...
Ça peut atteindre 10 à 15 minutes?
En 5 minutes, je peux lire le texte.
Mmh, bien sûr.
J'ai vu, est-ce que ce lexique est abordable?
Mmh, c'est-à-dire est-ce que le vocabulaire utilisé.
Est-ce que j'ai compris mmh. réellement les sous-entendus de ce texte? Est-ce que le style de l'auteur me permet de pénétrer au sens véritable? Mmh. Là, je dis, c'est bon, je peux comprendre. J'ai lu la consigne, j'ai vu dans le libellé, est-ce que je peux trouver les centres d'intérêt proposés? Ou bien, mm-hmm. comme le résumé, et comme la discussion, même dans le commentaire, l'élève est capable de changer la consigne.
Mm-hmm, bien sûr.
Il peut prendre deux autres centres d'intérêt et les proposer. Mais il ne peut pas prendre un et laisser un autre. Parce que c'est ça
le candidat doit se décider en une dizaine de minutes.
Oui.
Tout au plus une quinzaine, on peut résumer. Merci à vous.
Nous entamons à présent la deuxième partie de notre forum de ce soir et en pour thème comment réussir l'épreuve de français au baccalauréat. Voyons à présent dans les détails comment traiter chacun de ces trois types de sujets de l'épreuve de français au bac. D'abord le résumé discussion. Monsieur Abraham Idi Aboubakar, comment traite-t-on ce sujet?
Voilà. Pour l'exercice du résumé discussion, qu'on appelle de manière beaucoup plus correcte la contraction de texte, et il s'agit d'abord de faire une bonne lecture du texte. Une bonne lecture du texte suppose le lire plusieurs fois.
Combien de
fois? Parce qu'on dit la répétition est la condition du savoir. Plus vous répétez, plus vous avez la capacité de mieux maîtriser ce qu'on cherche à véhiculer. Ça dépend du nombre de fois qui pourrait permettre à l'élève de percer le mystère du texte. Voilà. Donc, c'est à lui de s'organiser. Mais une chose est sûre, c'est que pour mieux comprendre un texte, il faut le lire plusieurs fois, et tout en respectant sa logique et son objectivité. Et le deuxième travail qu'il faut faire par rapport au résumé, donc parce que contraction de texte égale à résumé plus discussion.
Bien sûr, donc c'est deux travaux.
Voilà, c'est deux travaux à faire. Voilà, le résumé noté sur 10, la discussion notée sur 10. Maintenant, par rapport au résumé, comme je le dis, il faut faire une bonne lecture du texte, après quoi il faut toujours dégager le thème et la thèse. Quel est le thème?
C'est l'idée défendue par l'auteur.
Par l'auteur, voilà. Donc, le thème, c'est le concept général autour duquel donc, s'articule le texte.
On peut parler de la mendicité.
Par exemple, la mendicité ou bien les conditions de la femme, n'est-ce pas? Ou, je ne sais pas, la corruption, etc. etc. Donc, il faut toujours déterminer le thème. En plus, donc, il faut, ensuite, il faut dégager la thèse défendue par l'auteur afin de ne pas la déformer, n'est-ce pas? Alors, le thème
l'auteur
détecté...
L'auteur peut soutenir, par exemple, que la corruption est un frein au développement.
Voilà, donc il faut rester dans cette logique. Ensuite, il faut déterminer, il faut recenser les arguments essentiels et les reformuler. Comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Chamsou, voilà, il ne s'agit pas d'une reformulation mot à mot, où il faut prendre un mot et le remplacer par son synonyme, ou encore je complète, il ne s'agit pas d'une reformulation linéaire, c'est-à-dire une ligne par ligne, non, mais c'est comme il l'a dit, on peut prendre un nombre de phrases dans lesquelles on a une idée, donc c'est l'idée qu'il faut reformuler à travers donc ses propres expressions. Voilà, il faut garder donc le sens de ce que veut dire l'auteur, mais de manière contractée, de manière condensée. Alors l'exercice donc il nous exige une certaine logique, comme quoi il ne faut pas changer le système d'énonciation, c'est-à-dire la manière dont le texte a été écrit doit être respecté. Si l'auteur, c'est-à-dire s'est basé sur la première personne du singulier pour écrire son texte, le candidat, lui aussi, il doit être fidèle à cette logique.
C'est-à-dire si l'auteur dit « je ».
« Je », il doit aller avec le « je », il ne doit pas se détacher du texte, dire que comme ce n'est pas moi, voilà, je vais utiliser peut-être la troisième personne du singulier. L'élève doit rester fidèle à la logique établie par l'auteur. Alors, donc, en plus de cela, il faut aussi toujours... suivre la logique donc établie par l'auteur en utilisant ce qu'on appelle les connecteurs logiques, parce que c'est les connecteurs,
les mots de liaison,
voilà, les mots de liaison,
cependant,
c'est, voilà,
néanmoins
mais donc, voilà, que ce soit des connecteurs d'adjonction, d'opposition, voilà, de conséquences, de causes, etc.
et là c'est une bonne maîtrise de la langue à ce
effectivement
niveau.
Parce que c'est eux qui permettent d'harmoniser les idées. Il y a une logique établie par l'auteur, comme je suis en train de le dire, il faudrait la respecter impérativement. Et dans un texte de résumé, il y a toujours la présence de ce qu'on appelle des exemples. Il y a des exemples argumentatifs et des exemples illustratifs.
Bien sûr.
Les exemples illustratifs, c'est des exemples qui servent tout simplement à étayer une idée. Et c'est des exemples qu'on peut facilement supprimer sans pour autant biffer le sens du texte. Mais les exemples argumentatifs, eux, ils tiennent lieu d'arguments. L'élève est censé comprendre que voilà, s'il les supprime, il peut supprimer une bonne partie du sens du texte. Eux, ils doivent obligatoirement revenir, mais sous une forme reformulée. Il faut les reformuler. Donc, c'est un peu cela.
Et le résumé toujours, ici, c'est un quart du texte initial.
Voilà, il faut résumer le texte au quart de sa longueur initiale.
Le nombre de mots avec une marge de 10%, c'est ça?
Voilà, c'est bien cela. Le texte est à résumer au quart de sa longueur initiale avec une marge de plus ou moins 10%. Par exemple, si c'est un texte de 200 mots, le quart va nous faire
50. Mm-hmm. Maintenant, la marge,
maintenant,
ça donne
la 5. Marge, ça doit faire 5. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que la marge par rapport à ce texte de 200 mots, elle doit être de 45. L'intervalle fermé de 45 voilà, à 55 fermé.
45, merci à vous. 46, nous avons compris 55. Pour le résumé et la discussion de façon succincte, voilà. Qui est la deuxième partie de ce travail.
La discussion, elle prend toujours appui sur le texte ayant fait objet du résumé.
Comme ça a été dit par
comme ça a été dit tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, comme on le dit encore, je reviens parce que c'est très important. Oui, l'élève n'est pas tenu de traiter ce sujet. Il peut toutefois, s'il estime que c'est compliqué pour lui, prendre une autre opinion émise par l'auteur et de la discuter. L'exercice obéit à une division tripartite. Nous avons une introduction, un développement et une conclusion.
Et de quoi sont composées justement l'introduction, le développement et la conclusion d'une discussion?
Maintenant, quand vous prenez l'introduction, elle est elle aussi subdivisée en 3 à 4 parties. D'abord, il faut une mise en contexte. La mise en contexte, elle est censée aller du général au particulier. Il y a toujours une généralité qu'évoque le sujet. Il faut aller de cette généralité pour aller à la particularité, c'est-à-dire la question sous-jacente qu'on essaie de nous exposer. Alors, après donc, cette mise en contexte, l'élève doit s'atteler à faire soit la reformulation du sujet ou la reprise du sujet. On reprend le sujet, généralement, lorsqu'il est court, et on le reformule lorsqu'il est volumineux. Le sujet, c'est-à-dire l'opinion, elle peut faire tout un paragraphe. S'il va falloir la ramener dans l'introduction, l'introduction risquerait d'être quelque peu kilométrique. Donc, à ce niveau, on demande à l'élève de faire appel à ses capacités de résumer et de reformuler cette opinion et de l'insérer dans la deuxième partie donc, du travail. Mais maintenant, la particularité, c'est que si c'est une reprise du sujet, on conserve les guillemets. Donc,
parce que là, ça devient une citation.
Voilà, ça devient une citation. Si on reformule le sujet, on fait partir les guillemets. On peut ramener cette reformulation dans une proposition subordonnée complétive avec une conjonction de subordination et on supprime les guillemets. Donc après, la reformulation ou la reprise du sujet.
La reprise du sujet.
La problématique. Et enfin, l'annonce du plan.
Et l'annonce du plan, c'est-à-dire comment le sujet va être traité. Oui. Monsieur Soumane Chamsou, dans la discussion, le développement, qu'est-ce qu'on met rapidement?
Le développement de la discussion, c'est le lieu de détailler les différentes positions. Nous l'avons dit, la discussion, c'est un plan dialectique, contrairement à la dissertation.
C'est-à-dire qu'il faut faire
thèse, antithèse et une synthèse.
Et une synthèse.
Donc, le développement est le lieu où il faut détailler la première thèse, celle qui est sous-entendue dans le sujet. Donc, il s'agit forcément de détailler à partir de 2 ou 3 arguments. Donc, forcément. Malheureusement, et c'est pour cela que je dis, nous donnons un aux élèves. Il y a des élèves qui font un seul paragraphe, pensant que le développement, quand on dit thèse, on fait un paragraphe et antithèse, un paragraphe. Non, c'est faux et archi-faux. C'est pour cela qu'on apprend aux élèves de faire une élaboration du plan qui consiste à chercher les idées et les exemples avant de les détailler.
Ils ont 4 heures de temps pour le faire. On voit certains élèves qui finissent
à
10
heures. Oui, mais c'est parce qu'il faut passer ces travaux préliminaires. Il s'agit de faire élaboration et de chercher au moins 2 arguments,
au moins deux
arguments dans chacune des parties. 2 arguments en thèse, 2 arguments en antithèse. L'antithèse, malheureusement, ce n'est pas le dialectisme opposé dont on parle, c'est chercher les insuffisances de la première thèse. C'est-à-dire, les gens pensent que c'est une contradiction nette ou stricte de la thèse. On ne peut pas dire qu'une chose est noire en même temps dire qu'elle n'est pas noire. Donc, l'antithèse sous-entend qu'il y a des insuffisances dans la globalité de la thèse.
Dans ce que
l'auteur soutient, il y a des petites insuffisances,
On va illustrer rapidement, par exemple, prend une thèse et montrer comment on trouve l'antithèse, par exemple.
Je parle, par exemple, lorsque on dit, dans le texte de Joseph Kizerbo, qui dit que...
L'historien.
Il parle de la place, le statut de la femme africaine. Il dit... Le statut de la femme africaine est loin d'être un statut négatif tel que les gens le pensaient. Donc, ça veut dire que ici, il sous-entend que la femme africaine a une place de choix dans mm-hmm. la société africaine, contrairement mm-hmm. à ce que beaucoup de gens pensent. Mm-hmm. Donc, la thèse consiste à...
Ça, c'est une thèse de l'auteur.
Oui, voilà. La thèse de l'auteur, c'est de montrer que la femme jouit de plusieurs droits, et dans le texte, il l'a démontré. Donc, ça veut dire que le texte déjà traite la thèse. C'est ça, les élèves ne comprennent pas. Mm-hmm. Ça veut dire, lorsque on vous dit de choisir le sujet qui est dans le texte a déjà traité, si l'élève comprend, la première thèse. Mm-hmm. Mais sûr. De façon systémique. Ça veut dire, c'est pas détaillé.
Maintenant, il faut chercher l'antithèse. Maintenant, l'antithèse ici, là, c'est quoi?
Par rapport à ce cas précis, on peut montrer que dans certaines contrées, la femme, c'est elle qui travaille pour nourrir les hommes.
Bien sûr. Hein? Et maintenant ici, comment faire la synthèse? C'est vrai, dans certaines localités, la corvée même, aller chercher de l'eau, matin, piler le mil, quand on pèse un peu, les travaux champêtres, dans certaines localités.
Donc voilà, donc ça c'est le statut négatif.
Hein?
Maintenant l'autre, lui, il a parlé de statut positif. Maintenant la synthèse consiste, quelle que soit la situation, la femme, elle reste toujours fondamentale comme un pilier dans la société. Mm-hmm. Hein? Que sa place soit négative ou positive, entre les deux là, la place de la femme, là, elle est toujours auprès de l'homme. Donc, ça s'entend que la synthèse, ce n'est pas aussi, comment dirais-je, un point d'intersection entre les deux thèses. C'est une sorte de réconciliation entre la thèse et l'antithèse. C'est ça que nous appelons synthèse.
La synthèse. Ah. Voilà. Maintenant, le commentaire composé, ça nécessite quoi, Monsieur Abraham Aboubakar Idi? Rapidement.
Michel, ce que je dois dire rapidement,
oui,
par rapport au commentaire composé.
Certains éléments ont déjà été donnés.
Mm-hmm. L'une des premières qualités que l'élève doit avoir par rapport au commentaire composé, c'est la maîtrise des procédés stylistiques. Mm-hmm. C'est-à-dire les figures de style, les tonalités, voilà, savoir détecter un champ lexical et de le mettre en valeur, savoir faire parler les temps verbaux. Quand l'auteur, par exemple, utilise le présent de l'indicatif de manière fréquente, il faut comprendre que ce qu'il est en train de retracer, c'est toujours d'actualité. Mm-hmm. Quand il utilise le passé, peut-être c'est pour renvoyer à une nostalgie ou à une décision définitivement consommée. Mm-hmm. Quand il parle du futur simple, c'est peut-être pour nous faire part d'un projet d'avenir, comme dans Demain des lobes de Victor Hugo. Vous allez voir, Victor tout au long du texte, il utilise le futur simple. Et ce n'est pas fortuit. Vous allez voir. Voilà, il y a une prépondérance du futur simple et c'est un message que l'élève doit comprendre.
Mais là, c'est difficile à comprendre, hein, parce qu'on ne voit c'est pas qu'il s'agit d'un mot et souvent, jusqu'à la fin, il ne parle pas d'un mot.
Voilà pourquoi une connaissance préalable du texte pourrait beaucoup aider. Mm-hmm. Voilà. Donc, la maîtrise des procédés stylistiques, comme je le dis, parce que vous ne pouvez pas faire un commentaire composé sans pour autant maîtriser les figures de style. Mm-hmm. Honnêtement, ça n'a pas de sens parce que c'est sur la base de ces figures de style que vous allez faire parler les centres d'intérêt. Mm-hmm. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail essentiellement explicatif.
On a également les trois parties qu'il faut avoir, l'introduction,
le développement. Oui, il y a une introduction, un développement et une conclusion.
Qu'est-ce qui fait la différence avec les autres
La différence, c'est que là, c'est un travail essentiellement explicatif qui tourne autour des centres d'intérêt. Mm-hmm. Là-bas, c'est une argumentation.
Bien sûr.
Voilà. Donc, ici, comme je le dis, on commence toujours par le premier centre d'intérêt. Le centre d'intérêt numéro 1. On essaie de faire ce travail explicatif sur la base des procédés stylistiques, les figures de style que vous aurez détectées, c'est à partir d'elles que vous allez essayer d'expliquer le fond de la pensée de l'auteur, tout ce que vous aurez détecté comme champs lexicaux, comme tonalités, etc., etc., jusqu'à épuiser effectivement le centre d'intérêt. Mm-hmm. Maintenant, avant de passer à un autre centre d'intérêt, il faut impérativement faire une phrase de transition pour permettre au correcteur de comprendre que vous êtes en train de quitter le premier centre d'intérêt pour aller vers le second centre d'intérêt. Et pour le deuxième centre d'intérêt aussi, c'est toujours le même travail explicatif êtes censé faire, voilà, jusqu'à la fin.
Monsieur Soumane Chamsou, la dissertation, quelles sont les qualités requises à ce niveau et comment bâtir le plan?
La dissertation littéraire a pour sous-bassement d'abord la culture livresque.
C'est-à-dire l'élève doit déjà avoir beaucoup lu?
Exactement, puisque la plupart des consignes, des directives du sujet vous invitent de réfléchir ou de partager ou d'illustrer à l'aide d'exemples tirés de vos propres lectures. Donc ça, la consigne sous-entend forcément que l'élève doit lire.
Bien sûr.
La dissertation comporte elle aussi trois parties. Introduction, développement, conclusion. Ce qui est nécessaire pour maîtriser, c'est que la dissertation, les trois parties de l'introduction posent problème aux élèves et de là, le travail est nul. L'introduction demande à ce qu'il y ait une contextualisation du sujet. Une deuxième partie, poser le problème clairement, c'est-à-dire chaque sujet pose un problème littéraire. C'est ce problème littéraire que l'élève n'arrive pas à comprendre. Et les problèmes littéraires, il ne peut pas les comprendre pour la simple raison qu'aujourd'hui, l'école ne marche pas très bien. Il y a un travail en amont qu'on devait faire pour que cela soit bien compris. Malheureusement, on ne le fait pas. C'est l'étude des courants littéraires. Ces courants littéraires contiennent, ce sont ces courants littéraires qui sont les problèmes littéraires.
C'est-à-dire les élèves doivent savoir qu'il y a eu plusieurs niveaux,
plusieurs débats,
passé,
plusieurs
où
débats,
la littérature a évolué.
Plusieurs débats au niveau de ce que la littérature ou bien l'art devait être. Ces courants littéraires, de la préciosité jusqu'au futuriste, c'est qu'il y a eu plusieurs courants littéraires et plusieurs débats littéraires. Et la dissertation ne pose problème que par rapport à ces courants. Pour savoir si le sujet pose le problème de l'imagination dans l'art, de l'imagination dans l'illusion, dans l'évasion, dans l'irrationnel, il faut qu'il comprenne de quelle époque le sujet fait référence. Et s'il arrive à trouver que ça parle de l'imagination, donc l'antithèse, c'est très simple, c'est le réalisme.
Bien sûr.
Donc, c'est pour cela que je dis, cette première partie, la mise en contexte, là, elle est facile.
Ça veut dire que
mais
cela suppose...
trouver le problème, poser le problème, c'est ça qui cause problème.
Maintenant, et la conclusion, comment il faut terminer la conclusion?
La conclusion fait un bilan des grandes lignes développées. Donc, thèse, antithèse, synthèse, qu'est-ce que vous avez développé? Vous résumez, elle est différente de la synthèse, parce que c'est ça le véritable problème. Certains collègues disent qu'il faut joindre la synthèse dans la conclusion. Ce n'est pas vrai. La synthèse est une partie.
Vous soutenez, M. Abbas?
Non, la synthèse est une partie.
Entière.
Elle n'a rien à voir avec cette...
C'est déjà dans cette, le plan,
dans le
corps.
Donc, exactement.
Bien sûr.
La synthèse dont on parle dans la conclusion, c'est quoi? Après avoir fait le bilan, l'élève doit énoncer une opinion personnelle. Cette opinion personnelle se fait en donnant son point de vue entre les deux parties, laquelle je soutiens. Ou bien proposer une solution entre les deux parties, là où il y a problème, qu'est-ce qu'il faut faire pour le résoudre? Ou bien lancer... finir par une question.
Il y en a justement qui disent qu'il faut terminer
donc,
par une question.
Donc, ce n'est pas
une
synthèse.
Une interrogation.
Oui, c'est ça, j'ai dit.
Encore, merci, mais ce n'est pas une obligation, c'est ça.
L'obligation, peu importe. N'est pas une obligation.
Mais c'est de montrer qu'il a l'art quand même de convaincre lui aussi. Nous allons terminer par les conseils pratiques pour réussir chacun de ces trois sujets au choix proposés aux candidats que nous venons de passer au pain fait. D'abord, quelles sont les dernières attitudes à avoir dans cette préparation des candidats au baccalauréat 2021? Monsieur Aboubakar Idi, voilà, Abraham.
Monsieur Michel, moi, le conseil que j'ai à donner aux candidats, c'est d'abord de garder leur calme et de ne pas s'embrouiller. Et il faut se dire que c'est un truc assez normal. Voilà, se mettre en tête que ça n'a absolument rien d'extraordinaire, c'est comme un simple devoir de classe. Les sujets qu'on va leur amener, c'est en grande partie des sujets qu'ils ont déjà traités en classe, mais qu'on essaie de reformuler. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas la mer à boire. Tout ce qu'on va leur amener en situation d'examen, c'est des choses qu'on estime qu'ils sont capables de les faire. En fait, le grand problème, comme on l'a déjà dit, c'est le problème du choix. Beaucoup viennent avec des idées préconçues. Ils se disent que moi, je suis un spécialiste du commentaire composé, ou je suis spécialiste de la dissertation. Et du coup, quand ça ne vient pas tel que tu l'as prévu, ça devient... un problème. Et facilement, tu peux te retrouver avec un 1 ou un 2. Et la mort dans l'âme, en terminale A, par exemple, tu reviens l'année prochaine. Tu as un 2 en français ou un 1 en français. Naturellement, tu vas revenir parce que le trou sera assez important et c'est difficile de le combler.
Par exemple, c'est coefficient 4.
4.
Ça veut dire sur 80.
Sur 80, si tu te retrouves avec 1, ça fait 4 sur 80. Un trou de 76 points, je ne pense pas. Que d'autres matières puissent te permettre de
donc
combler le tout.
Donc, vos conseils à ce sujet, c'est...
Mon conseil, c'est de ne jamais négliger aucun des trois exercices, de manière à ce que, même si mon exercice préféré ne me permet pas, c'est-à-dire de me retrouver, je pourrais me rabattre sur les autres exercices.
Voilà. Espérons que chacun des candidats fera donc le meilleur choix. Monsieur Soumane Chamsou, quel est l'intérêt pour chaque candidat de réussir son épreuve de français pour terminer?
L'intérêt, c'est... que c'est l'épreuve de français qui est la première épreuve. Mmh. Lorsqu'elle est ratée, la journée ou bien les autres jours sont mal faites aussi. Parce que, vous savez, c'est émotionnel. Mmh. Quand souvent vous sortez de la salle, malheureusement, c'est ça que les candidats se font. Ah, vous avez trouvé quoi? Moi, j'ai trouvé ceci. Et dès lors que quelqu'un te donne une fausse information, mais c'est fini. Les autres journées, tu t'es mis déjà en tête que c'est l'échec. Maintenant, tu bâcles les autres. Hein? Donc, ce qui fait qu'il ne faut pas tenir compte de la correction d'un camarade. Mm-hmm. Ce n'est pas le camarade de classe qui peut te corriger aussitôt sorti de la salle mm-hmm. pour te dire voilà ce qui c'est. Donc, réussir, l'intérêt, c'est faire en sorte que je me dis, même si j'ai raté, Dieu seul le sait. Mm-hmm. Je ne dirai à personne ce que j'ai fait. Je garde mon secret. Je fais mon travail et je me lance sur les autres matières. Il se peut que j'ai mal fait, mais il y a des collègues qui peuvent vous donner, parce qu'aujourd'hui, le véritable problème du français, c'est que ceux qui corrigent ne font pas français. Hein. C'est des agents de bureau qui n'ont jamais enseigné. L'organisation du bac, c'est que souvent, les agents du ministère partent aussi, parce qu'il y a 180 000 qu'on donne à l'enseignant aussitôt arrivé. Donc c'est pour cette raison, mmh. il y a des fonctionnaires tapis qui n'ont jamais enseigné, ou bien qui ont enseigné il y a plus de 10 ans. Mmh. Ils ne savent rien de ce qui est en train de se faire sur le terrain, et ceux-là partent corrigés. Mmh. Ils donnent des notes comme ils veulent, fantaisistes, 10, 12, 10, 12, 10, 12, ça s'arrête là. Parce qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas les grandes parties. Je vous le dis haut et fort, je vous dis, 2006 à 2020, j'ai corrigé le bac.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de critères pour corriger?
Non, il y a des critères, mais vous savez, on fait une correction ensemble, mm-hmm. à NIPE. Mais cette correction-là, chacun se met pour travailler. Mais comment l'autre peut savoir ce qu'il est en train de corriger? Mais nous constatons, parce que vous êtes 4 à corriger, et vous allez vous rendre compte que certains, il n'a donné que 8, 7, 8, 7, 9, 10. Tu vas savoir qu'il ne connaît, il ne maîtrise pas.
Vous êtes correcteur également chaque année. Est-ce le même constat que vous faites?
Oui, c'est bien triste. Mais peut-être moi, ce que je pourrais ajouter par rapport à cette chance-là que pourraient avoir certains élèves qui se disent avoir raté le sens du sujet, c'est quoi? C'est qu'il y a des collègues qui se disent que parfois, il ne faut pas tenir rigueur à la logique du sujet. Mmh. Il faut suivre le raisonnement de l'élève. Même si l'élève a raté le sens du sujet, s'il a un très bon raisonnement et que dans la logique de son hors-sujet, on sent qu'il y a une cohérence et qu'il s'exprime très bien. Mmh. Parce que là aussi, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte.
Il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Accorde les adjectifs qualificatifs très bien.
On sait que
OD avant le verbe, il accorde.
On comprend clairement que c'est un bon élève, mmh. mais qui, peut-être ce jour-là, il ne s'est pas retrouvé bien dans son assiette mmh. et il a raté le sens du sujet. Mmh. Moi, je pense que, et je suis de ces enseignants, mmh. qui pensent que parfois, il ne faut pas tellement tenir rigueur à ses élèves. Mmh. Vous pouvez peut-être un peu voir la note que vous devrez normalement lui donner si c'était en situation de classe. Mm-hmm. Parce que c'est dans une situation d'examen, c'est son avenir qui est en jeu, c'est un élève qui peut se rattraper. Voilà.
Les notes ne sont pas uniformes, on peut dire que ça dépend.
Même si ce genre de citation, l'IP statue, peut dire l'élève peut faire hors sujet, mais combien pensez-vous, sans faute, l'élève qui a bien traité, mais il a fait hors sujet? On peut statuer, on lui donne 7, 8, 9. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fonction de ce niveau d'expression, même s'il a fait hors sujet, ça c'est toujours, c'est en IP, on en parle. On se dit, bon, c'est vrai, cet élève-là,
c'est-à-dire au niveau du jury.
Au niveau du jury, il y a 4 professeurs de français qui corrigent le jury, l'ensemble des copies.
Mais la décision ne peut pas être valable au niveau d'une autre IP, c'est-à-dire au niveau d'un autre jury.
Voilà.
Ça veut dire qu'il y a la chance qui pèse ici aussi.
C'est ça.
Il y a les compétences.
Voilà, c'est de cela que nous parlons.
Mais également la chance.
Oui, c'est pour cela que nous disons souvent la correction de l'épreuve de français, il y a la chance.
Il y a la chance.
Oui. La chance, c'est que tous les enseignants qui partent, souvent, sincèrement, nous avons des camarades, des collègues qui ne sont pas de la discipline, mais qui corrigent.
Chers auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou qui a eu pour thème « Comment réussir l'épreuve de français au baccalauréat ». Nous étions en compagnie des deux enseignants de français et de lettres, plusieurs fois correcteurs au baccalauréat, M. Soumane Chamsou et M. Abraham Idi. Merci d'avoir répondu à nos questions, chers invités. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Au micro, c'était Michel Deji pour la présentation de ce forum. À la technique, c'est Nisaka. Rendez-vous demain à la même heure pour suivre un autre forum sur une autre thématique. Au revoir.